France Musique. France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bienvenue sur France Musique. Tout de suite, Clément Rochefort. Bonne journée. C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Bonjour à tous, très heureux d'accompagner votre lever ou votre petit déjeuner ce matin, de nouveau jusqu'à 9h sur France Musique. Nous sommes le mercredi 21 juillet, jour d'entrée en vigueur des nouvelles mesures sanitaires relatives à l'accès des salles de spectacle. Mais le mercredi, c'est aussi le jour de la sortie des films au cinéma. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Alexandre Astier pour parler de la sortie de Kaamelott, premier volet pour tous les amateurs de dérision héroïque-comique. Mais avant, à 7h40, les acteurs et le reportage 50 ans du Festival de Saintes, raconté par Flore Caron. À 7h50, dans le jeu de l'été, un disque Brahms, Bartok et Liszt d'Alexandre Kantorov, le pianiste, a de gagner. À 8h, le journal de Marie-Hélène Duvigneau. À 8h10, le Tour de France des festivals, la direction Valoire Baroque. Et puis, à 8h25, l'été des Frères Jacques. Alors, comme Alexandre Astier est un adorateur fou de la musique de Jean-Sébastien Bach, on va débarrer la journée avec Bach, avec le chœur d'ouverture de la cantate BWV 11, Lobet Gott in Seinen Reichen, louez Dieu dans ses royaumes, alias l'oratorio de l'Ascension, un cœur bourré de joie pour bien commencer la journée. Bon réveil et bienvenue à tous sur France Musique.
Thank you.
Que vous ayez passé une nuit agitée ou que vous ayez trop fait la fête hier soir, mieux qu'un Doliprane, la musique de Jean-Sébastien Bach, ça vous recadre l'esprit. C'était le chœur d'ouverture de l'oratorio de l'Ascension de Bach, interprété par le chœur Monteverdi et les English Baroque Soloists, emmenés par John Elliott Gardiner. Merci d'être avec nous ce matin. Vous écoutez France Musique, il est 7h36. aussi, ça file la patate de bon matin. C'était le galop extrait de la boutique fantasque d'Ottorino Respighi, une pièce composée d'après les péchés de vieillesse de Gioachino Rossini, hommage d'un compositeur italien à un autre. Et c'était l'Orchestre symphonique de Montréal dirigé par Charles Dutoit.
C'est l'été sur France Musique.
Et à 7h41, c'est l'heure des actus. C'est parti. À partir d'aujourd'hui, pour aller au cinéma, au théâtre, au musée ou au concert, il faut désormais présenter un pass sanitaire ou des tests négatifs au Covid, moyennant quoi le port du masque ne sera plus obligatoire dans ces lieux. Dans quelques jours, nous vous proposerons un reportage sur les premiers effets de ces mesures et sur leur mise en place. Attention toutefois au relâchement des gestes barrières, car le Covid-19 s'est invité au festival de Salzbourg malgré la vaccination, rapporte Diapason. En effet, un spectateur ayant assisté à la première de Jedermann de Hugo von Hofmannsthal, donné en ouverture du festival, a été testé positif au Covid-19, alors même qu'il était entièrement vacciné. Ce qui rappelle que les vaccins actuellement disponibles préviennent toutes les formes graves de la maladie, mais n'empêchent pas totalement de la contracter ni de la transmettre. Pour faire face, le festival de Salzbourg a donc décidé de rendre obligatoire le port de masque FFP2 dans tous les lieux de représentation. Ce week-end, on apprenait la mort du metteur en scène Graham Vick. Le festival Verdi du Teatro Reggio de Parme, où l'artiste britannique devait monter un bal masqué, a déclaré que l'édition 2021 du festival serait dédiée à sa mémoire. Ça y est, les femmes s'imposent. Diapason révèle qu'une étude montre qu'en Allemagne, près de 40% des musiciens d'orchestre sont désormais des musiciennes. L'enquête a été publiée par le magazine Das Orchester et réalisée à partir de données de 2020. Elle a recensé 9884 musiciens dans 129 orchestres allemands professionnels, financés par des fonds publics. Mais l'étude montre aussi de nombreuses disparités, par pupitre notamment. 93,7% des femmes sont harpistes, enfin des harpistes sont des femmes, et 65% des flûtistes sont des femmes, contre 98,1% d'hommes au pupitre de tuba et 95% au trombone. Par ailleurs, dans le détail, les femmes sont encore sous-représentées dans les postes supérieurs, tels que ceux de premier violon, de chef de section ou de soliste, avec seulement 28,4%, bien qu'elles représentent 47,5% des toutistes. Et pour finir, le Festival de Saintes fête cette année sa 50e édition. Né dans les ruines de l'abbaye aux Dames, il a été le théâtre de la Révolution baroque en France. 50 ans plus tard, il reste un rendez-vous incontournable de la musique ancienne. Retour sur cette belle histoire avec Flore Caron.
Malgloire, Christie ou encore Saval, le Festival de Saintes accueille dès ses débuts les grands pionniers du renouveau baroque. Sorte de laboratoire, il réunit étudiants et artistes pour des stages, des ateliers et des masterclass. Créé dans les années 70, l'événement attire des musiciens, à l'image de leur époque, qui recherchent un nouveau modèle de société mais aussi une autre vision de la musique. Annie Milo, aujourd'hui bénévole, nous raconte.
Avant la naissance du festival, il y avait des ensembles, il y avait des musiciens qui déjà s'étaient lancés dans l'interprétation des grands, Arnoncourt, Léonard. Le souffle qui existait dans les années 70 a été une façon de catalyser les choses, c'est-à-dire que ça a permis ce développement-là, et dans certaines conditions et dans certaines façons d'être, la convivialité entre le public et les musiciens et la façon d'utiliser les sites, même de façon très précaire à l'époque. On s'embarrassait pas de conditions techniques, de sécurité. La législation a beaucoup évolué. Il y a des choses que l'on faisait qu'on se permettrait pas de faire maintenant. Il y avait ce dynamisme et cet enthousiasme qui rendait tout possible, quoi. On était en plein époque Baba Cool. Faut voir les choses telles qu'elles sont.
Au fil des années, le festival évolue. Il se professionnalise et s'ouvre au répertoire classique et romantique. Mais la transmission demeure un axe majeur. En 96, le jeune orchestre de l'abbaye voit le jour. L'objectif, former une nouvelle génération d'interprètes. Cette année, il fête ses 25 ans et attire des musiciens de toute l'Europe.
C'est devenu un indispensable de passer par cette expérience, même physique, je dirais, de l'instrument, de la corde, de l'archet historique.
Stéphanie-Marie Degand, chef d'orchestre du jeune orchestre de l'abbaye.
Je pense que savoir, ça rend fort. Quand on se sent bien, on est joyeux, on est détendu. Tout ça est lié aussi au trac. Voilà, la maîtrise, c'est très important et ça passe par la connaissance. Pas une connaissance qui assèche ou qui sclérose, une connaissance qui explose, quoi.
Les années 70 ont marqué un véritable tournant dans la pratique de la musique ancienne et même au-delà. Aujourd'hui, la jeune génération d'interprètes se tourne de plus en plus vers les pratiques historiquement informées. C'est le cas de Pierre Gallon, claveciniste et membre de l'ensemble Le Caravansérail.
Le festival a eu un impact sur nos générations. Le festival, ou en tout cas tout ce mouvement qu'a épousé le festival ou qu'a peut-être simplement engendré le festival, au même titre que ce qu'on appelle les pionniers, enfin la génération évidemment des Léonard, des Kuiken, ces Européens du Nord qui ont un peu initié ce mouvement. Et donc le festival, dans cette démarche, a offert une scène pour ces chercheurs un peu babacool, un peu fou, un peu dingo, qui ont accepté eux de se mettre à nu. Des festivals comme celui de Saintes ont été vraiment hyper importants pour pouvoir offrir cette tribune hyper nécessaire, sans laquelle aujourd'hui, 50 ans après, on serait pas là.
Thank you.
Un des grands moments, sans doute, du Festival de Saintes, où il a sans doute dû la diriger, Philippe Hervaig, le diriger plutôt, l'oratorio Paulus, dont on entendait le premier chœur. Herr, der du bist der Gott, Seigneur, tu es le Dieu, avec la chapelle royale, le Collégium Vocal de Gand et l'orchestre des Champs-Élysées. Voilà qui couronnait ce reportage signé Flore Caron autour des 50 ans du Festival de Saintes, dont France Musique est partenaire, bien sûr. Merci d'être avec nous ce matin, il est 7h51. Et... Et quoi? Bah, c'est l'heure de jouer. C'est l'heure de gagner surtout. Et de gagner quoi? De gagner le disque du pianiste Alexandre Kantorov, consacré au trio Brahms Bartok Liszt. Premier pianiste français, Alexandre Kantorov a remporté le prestigieux concours Tchaïkovski. C'était en 2019 à Moscou. Un point commun entre ces trois compositeurs, l'art de la rhapsodie. Un genre avec ce caractère improvisé, qui correspond parfaitement à l'esprit impétueux du romantisme. Servi par trois tempéraments distincts, celui de Liszt, de Brahms et de Bartok. Alors pour gagner, il vous suffit de répondre correctement à la question qui va suivre. Vous nous écrivez via l'onglet « Contactez-nous » sur la page de l'émission Musique Matin sur francemusique.fr. Vous n'oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées complètes, bien sûr. Voici la question. Dans quel cartoon américain célèbre des années 40, la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt est-elle mise en scène de manière très humoristique? Est-ce que c'était Titi et Gros Minet, Tom et Jerry ou Bip Bip et Coyote? Dans quel cartoon américain célèbre des années 40, la deuxième rhapsodie de Liszt est-elle mise en scène de manière humoristique? Titi et Gros Minet, Tom et Jerry ou Bip Bip et Coyote? C'est à vous de jouer, vous avez jusqu'à 8h50. Thank you. Et si c'était la Rhapsodie hongroise numéro 11 dans la mineure de Franz Liszt, extrait du tout dernier disque d'Alexandre Kantorov qui est en jeu ce matin. Je vous rappelle que la question du jour, c'est de déterminer dans quel dessin animé américain on trouve une mise en scène de la deuxième Rhapsodie hongroise de Liszt. Est-ce que c'est Titier Grosminet, Tom et Jerry ou Bip Bip et Coyote? Vous pouvez continuer à nous écrire sur la page de l'émission Musique Matin sur francemusique.fr jusqu'à 8h50.
Cette semaine, Grand Large vous emmène faire le tour de la Méditerranée des années 20 aux années 50, de Barcelone au Caire, de Rome à Alger, d'Athènes à Tel Aviv. Pablo Casals, Mohamed El Amka, Arturo Toscanini, Marcos Vamvakaris seront du voyage. Alors, montez à bord, le Grand Large vous attend du lundi au vendredi à 17h. Ces 10 épisodes sont à retrouver en podcast sur francemusique.fr et l'application Radio France. Bon voyage!
Quel scandale, les samedis et dimanches à 10h sur France Musique. Carmen, Parade de Satie, Péléas et Mélisande, Callas à l'Opéra de Rome, Mozart, Beethoven, ils ont surpris, choqué, étonné, révolté, scandalisé leur époque. Retour sur les grands scandales de la musique classique par Jérémy Rousseau. Une série à retrouver également en vidéo sur francemusique.fr et ses réseaux sociaux.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Vous savez, il faut que je vous fasse une petite confidence. Moi, j'adore regarder tous les soirs ces petits dessins animés, ces cartoons américains. Vous savez, ça aide beaucoup à dormir. Je vous dis ça puisque ce sont ces cartoons qui sont en jeu ce matin. Allez, il est 8h. Et elle aussi, elle aime bien les dessins animés. C'est Marie-Hélène Duvigneau pour le journal. Bonjour.
Bonjour Clément, bonjour à tous. Présenté lundi en Conseil des ministres, examiné hier en commission, le projet de loi instaurant le pass sanitaire pour accéder aux lieux de culture et de loisirs et l'obligation vaccinale pour les soignants poursuit son parcours. Il arrive aujourd'hui en séance à l'Assemblée dans un climat particulièrement tendu. Ces mesures, vous le savez, ne font pas l'unanimité. Les opposants n'hésitent pas à le dire dans la rue, mais ça va parfois au-delà. Plusieurs députés, notamment de la majorité présidentielle, ont ainsi reçu des menaces de mort. Rosalie Lafarge.
Patricia Mireles n'a pas oublié la teneur du message reçu la semaine dernière.
Je suis armée, je vous mettrai une balle, surveillez vos arrières.
La députée En Marche de l'Hérault se félicite de l'ouverture hier d'une enquête par le parquet de Paris.
Il faut aller jusqu'au bout. Moi, je voudrais voir le visage de celui qui m'a envoyé cette menace. Qui est-il pour venir me mettre une balle dans la tête? Moi, je suis vice-présidente de la commission de la défense et des forces armées. Une arme, des balles? Pour moi, ça veut dire quelque chose.
Mais les condamnations ne sont pas forcément la panacée pour le marcheur de l'heure, Bruno Quetel.
J'ai par le passé été menacé de mort de manière très circonstanciée. J'ai reçu un chèque de 1 euro de dommages et intérêts. Donc je crois que la question n'est pas que là. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Et malheureusement, pour que les peuples aient une prise de conscience collective, il faut toujours que se produise un drame. Et je crois que là, il faut, par anticipation, que les Françaises et les Français mesurent les vrais enjeux du débat actuel.
Des Français pas toujours aidés par leurs élus dénoncent des membres de la majorité choqués par l'appel ce week-end de leur ancienne collègue Martine Vonner à envahir les permanences parlementaires. Pour autant, Roland Lescure, le porte-parole d'En Marche, tient à nuancer les choses.
Il ne faut pas penser que l'ensemble de la société aujourd'hui a envie de tuer tous les parlementaires de la République. Moi, je pense que c'est vraiment l'objet d'une très faible marge de la population. Et donc il faut à la fois être extrêmement ferme vis-à-vis de cette marge, mais ne pas donner trop d'importance à des mouvements qui sont avant tout marginaux et radicaux.
Le ministre de l'Intérieur a tout de même réclamé un renfort de la surveillance aux abords des permanences des élus. Vendredi, celle du président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a été investi par une quinzaine d'antivaccins.
Le pass sanitaire ne concerne pas pour l'instant les 12-17 ans. Les députés ont voté hier en commission un report à la fin du mois de septembre. Le gouvernement avait déjà exempté les 12-17 ans jusqu'au 30 août. Alors que le virus poursuit sa progression, 18 000 contaminations ont été enregistrées en 24 heures, 150% de plus en une semaine, selon le ministre de la Santé, du jamais vu depuis le début de l'épidémie. Le masque en extérieur fait d'ailleurs son retour dans les zones touristiques où le taux de contamination est le plus important, comme en Haute-Garonne ou en Charente-Maritime. Le gouvernement n'hésite plus à parler de quatrième vague et un nouveau conseil de défense sanitaire se réunit ce matin. Emmanuel Macron a-t-il été espionné par le Maroc? Le consortium de médias dont la cellule d'investigation de Radio France, rassemblée par l'association Forbidden Stories, poursuit ses révélations sur le logiciel espion Pegasus. Il aurait ciblé les téléphones du chef de l'État et de membres du gouvernement d'Édouard Philippe. Rabat conteste son implication dans cette affaire. Mais ce qui frappe Jacques Monin, c'est le peu de mesures de sécurité prises par l'exécutif français dans ses communications.
Selon nos informations, l'ANSSI, l'Autorité Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, et la DGSI, le Renseignement Intérieur, ont prévenu Emmanuel Macron qu'il valait mieux utiliser des moyens de communication sécurisés. Il y en a deux, qu'on appelle Théorème et CryptoSmart, mais le président conserve malgré tout plusieurs téléphones portables avec lesquels il communique avec ses proches ou des journalistes sur des messageries du type Telegram. Sauf qu'on l'a vu, pour Pegasus, lire les messageries chiffrées, c'est un jeu d'enfant. Maintenant, les ministres ne sont pas plus prudents. Certes, à l'entrée du Conseil, on laisse les téléphones dans une boîte, mais les décisions et les discussions les plus importantes ont toujours lieu sur les messageries, via donc les téléphones portables. Alors pourquoi une telle légèreté? Un bon connaisseur de l'Élysée nous a dit que tout le monde sait que ce n'est pas prudent, mais il existe un sentiment d'impunité, une idée partagée selon laquelle personne n'oserait pirater le téléphone du président de la République.
De vastes étendues de la province centrale chinoise du Henan sous les eaux, après ce que les météorologues considèrent comme les plus fortes pluies depuis 1000 ans. Zhangzhou, la capitale, a été la plus touchée. Dans cette agglomération d'environ 10 millions d'habitants située sur les rives du fleuve Jaune, 12 personnes sont mortes dans une ligne de métro inondée. Près de 200 000 personnes ont été évacuées alors qu'un barrage menace de s'effondrer à l'ouest de Zhangzhou. Le temps chez nous, chaud et ensoleillé, après dissipation de brume matinale du Pays basque Hollande. Cette journée estivale sera tout de même ponctuée de quelques averses éparses sur les reliefs. Les températures, 14 à 19 degrés sur la moitié nord ce matin, 18 à 23 au sud, 25 à 32 cet après-midi au nord, 25 à 36 au sud. France Musique, 8h05, et c'est à vous Clément Rochefort.
Oui, et ben vous avez le droit de revenir à midi. Quand vous annoncez une météo D'accord. comme celle-ci, Marie-Hélène, vous avez le droit de revenir à midi sur France Musique. C'est pour le prochain journal. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bon réveil. Bienvenue à tous sur France Musique, à ceux qui nous rejoignent à l'instant. À suivre jusqu'à 9h. À 8h10, le Tour de France des festivals, direction la Savoie à Valoir, le Valoir Festival Valoir Baroque. À 8h25, l'été des frères Jacques. Et puis à 8h30, c'est un petit peu notre événement du jour. Et là, c'est le fan qui parle. On recevra Alexandre Astier pour parler de la sortie du film Kaamelott, premier volet, aujourd'hui sur les écrans. Alors, il y a ceux qui sont à la plage, mais il y a aussi ceux qui n'y sont pas ou plus ou pas encore en vacances. Eh bien à Paris, ils ont aussi leur festival, ça s'appelle Classique au Vert. C'est tous les week-ends jusqu'au 8 septembre en alternance avec une programmation jazz et musique actuelle. Ça se passe sur la grande scène installée au cœur du parc floral du Bois de Vincennes. C'est juste à la sortie sud-est de Paris. Parmi les artistes à venir dans les semaines à venir, côté classique, il y aura le pianiste Pavel Kolesnikov, l'orchestre de l'Opéra de Rouen en Normandie, le violoniste Gauthier Capuçon, l'orchestre de chambre de Paris ou encore le quatuor Modigliani et la violoncelliste Astrix Cyranoussian dans un programme Schubert. Tous les renseignements sont sur le site du festival www.festivalduparcfloral.paris. Thank you. Du Quatuor numéro 4 de Franz Schubert, Quatuor en ut majeur, Deutsche 46, interprété par le Quatuor Modigliani. D'ailleurs, tiens, je vous signale que vendredi, ce sera leur album Haydn, Bartok, Mozart qui sera à gagner dans le jeu de l'été à 7h50. Merci d'être avec nous ce matin, il est 8h10.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39h de Clément Rochefort.
Et tout de suite, on reprend notre vélo direction la Savoie. Et nous prenons la direction très exactement de Valloire, où le festival Valloire Baroque démarre le 24 juillet et se tiendra jusqu'au 30 juillet. C'est au cœur de la Savoie, entre autres dans une église qui est un joyau du baroque. Pour en parler, nous sommes avec le directeur artistique du festival, Gaël de Querette. Bonjour.
Et bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin. Le festival s'appelle Valloire Baroque. Oui, j'ai commencé à parler des lieux, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je crois que c'est d'abord une très très belle église, puis un autre lieu du festival. Il y a deux lieux en tout.
Oui, il y a deux lieux, mais il y a en effet principalement ce baroque savoyard, qui est un baroque italien, on pourrait dire, qui était extraordinairement fait de centaines d'anges en stuc, un autel extraordinaire, des colonnes torses extraordinaires. Mais on aura aussi, en effet, c'est vrai, un autre endroit, puisque il y a plein de petites chapelles de votives dans les environs, et nous les savourerons en marchant, en faisant marchant le marché public, j'allais dire.
Ah bah oui, alors ça c'est aussi un des avantages de ce festival, c'est qu'on est dans une région qui est magnifique. C'est une région de montagne avec des paysages à couper le souffle, Gaël.
Oui, et d'ailleurs, la mairie de Valloire a bien compris qu'il fallait équilibrer avec le tourisme d'hiver. Et c'est vrai que nous sommes bien soutenus par la ville, le Mour, pour ce tourisme d'été.
Alors, la thématique de cette année du festival Valloire Baroque, c'est les contre-ténors. Alors moi, je dirais contre-ténors et autres ténors avec des aigus.
Oui, parce que ce thème, les voix de contre-ténor, c'est un terme générique qui cache en réalité beaucoup de réalités, et le programme va être un programme dialectique, c'est-à-dire qu'on pourrait assister à chaque concert comme une évolution de la voix de contre-ténor, c'est-à-dire que le contre-ténor est né dans les églises, puisque les femmes n'y chantaient pas, et donc nous avons invité à ce propos l'ensemble Capella Platensis pour chanter Messe de Josquin, Ave Maria Stella, mais en même temps que l'Église devenait de plus en plus puissante, l'Église a pensé qu'il fallait des voix plus puissantes dans les chœurs et ils ont créé des castrats. Bien, et c'était une idée assez extraordinaire puisque c'est pour eux une mythologie incroyable, c'est-à-dire que ça réunissait la voix d'ange dans un corps d'homme. Et ces castrats sont rentrés dans les maîtrises des cathédrales, mais ont vite envahi l'opéra, le monde de l'opéra, à partir de 1600, bien sûr, à Florence, etc., où a commencé l'opéra. Et donc, nous entendrons Franco Fagioli avec l'ensemble Gabetta et Andreas Scholl avec l'ensemble 1700 nous restituer tout cet immense répertoire des castrats, puisque quand même les contre-ténors ont pris leur revanche maintenant, et Andreas Scholl, et ce sera tout à fait intéressant, il nous fera des cantates napolitaines, c'est-à-dire ces petits opéras en quelque sorte, n'est-ce pas, qui Naples était un lieu d'éducation des castrats, et donc ce sera tout à fait intéressant d'entendre ça. Ils viendront avec l'ensemble 1700 de Dorothée Oberlinger et nous entendrons les magnifiques flûtes, admirables flûtes des concertos que jouera Dorothée Oberlinger.
Voilà, toutes les générations, Gaël de Kerret, hein, seront représentées, toutes les générations de ténors et de ténors avec aigus, de contre-ténors et autres hautes contres seront représentées cette année. Oui. À Valloire Baroque,
oui,
pardon. Je voudrais vous poser une autre question parce qu'on peut retrouver bien sûr tout le détail des concerts sur le site de votre festival www.festivalvalloirebaroque.com. Une dernière question très rapidement sur le off du festival. Ça s'appelle la Traverse. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, la Traverse, c'est simplement une rue qui traverse de manière, en croix la rue principale de Valloire, qui est devenue en effet notre festival off. Et qui sera cette année orné d'un grand sing-along un peu spécial, c'est-à-dire des choristes qui viennent de toute la France, qui vont chanter des larges extraits du Requiem de Mozart, et puis des concerts de l'ensemble Brugliamini, les Léonides, et aussi Alchimia, qui est un concert très intéressant, qui est pas loin de ce que pourrait faire une musique qui connaît la science quantique.
Héros ou demi-dieu, figure mythologique pour contre-ténor, voilà le programme du festival Valloire Baroque qui se tient du 24 au 30 juillet. Merci Gaël de Kerret, moi j'ai envie de vous dire, ça devrait valoir le coup d'y aller.
Bravo.
Thank you.
Nymphe des Bouès de Josquin des Prés, autrement appelée la déploration sur la mort de Johannes Ockeghem, qui était son maître. Et c'était la Capella Pratensis de Joshua Rifkin, un ensemble invité du festival Valoir Baroque, tout comme le ténor Reinout van Mechelen, qui était notre invité hier matin sur France Musique. Un entretien à réécouter sur francemusique.fr. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Il est 8h19. On va faire le point sur l'affiche des concerts du jour. 4 nouveaux concerts. D'abord à midi, retrouver Saskia Deville et son agenda des festivals en live et en public depuis le festival de Radio France Montpellier-Occitanie. Vous y entendrez le baryton Marc Moyon avec Marwan Mankarbenis au clavecin, le batteur Sonny Troupé en trio et Félicien Bru à l'accordéon avec Thibaut Garcia à la guitare. À 16h, c'est Christophe Dillis qui prend le micro pour vous parler musique de chambre espagnole et latino-américaine avec le quatuor Tana. Et puis à 20h, on retrouvera François-Xavier Chemchak en direct du Festival de Radio France, en direct de l'Opéra Berlioz du Corum de Montpellier avec un programme autour du tango, autour de Piazzolla, autour du Quinteto Nuevo Tango, avec Thomas Enco justement, Thibaut Garcia, Jordan Victoria au violon, Édouard Macarès à la contrebasse et Félicien Bru à l'accordéon. Ce sera l'occasion d'entendre une création de Thomas Enco, une soirée qui se poursuivra à 22h avec du jazz toujours en direct du Festival de Montpellier. Et ça, c'est l'ami Alex Dutille qui sera aux commandes. Ça, c'est une création récente de Thomas Enko, Après l'orage, une pièce composée d'après la sonate de l'opus 111 de Beethoven, une pièce composée pour l'accordéoniste Félicien Bru et ses amis du quatuor Hermès, avec aussi le contrebassiste Édouard Macarès. C'était extrait de son disque 9. Thomas Enko, dont vous découvrirez la création ce soir, création Vol de nuit, dans un esprit certainement plus proche de Piazzolla et du tango, puisque c'est un hommage à Piazzolla qui sera rendu en direct du festival de Radio France à Montpellier, un hommage aussi au Tango Nuevo en quintette par Thomas Enko au piano, Thibaut Garcia à la guitare, Jordan Victoria au violon, Édouard Macarès à la contrebasse et Félicien Bru à l'accordéon.
C'est l'été sur France Musique.
Il est 8h25 et c'est l'heure de l'été des frères Jacques.
Et ben alors qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que c'est beau, la photographie ? Les souvenirs sur papier glacé électrise.
Alors ce matin, comme on va recevoir dans quelques instants Alexandre Astier, qui est un petit peu le spécialiste de la dérision héroïcomique à propos d'une des grandes légendes médiévales, la légende arthurienne, j'ai choisi de vous faire écouter dans l'été des frères Jacques une chanson signée Francis Mainville. C'était un mérovingien, une chanson qui tourne elle aussi en dérision les rois médiévaux, puisqu'elle met en scène un roi mérovingien qui, pendant qu'il est à la chasse au vison avec son vieux chien, se fait piquer la reine dans le dos par le fou du roi. C'était un mérovingien, les frères Jacques.
Avec son chien, et puis bien sûr avec ses copains, car elle est comme lui de la classe. Avec les copains de son chien, qui n'était que les chiens des copains, les romagiens. Aïe, chien de chasse, continue de race, chasse de glace, chasse bon temps.
Enfin, oui, oui,
chasse bien.
Et de l'aurore aux doigts de rose, jusqu'au crépuscule aux orteils mauves. Il chassait le tombeau rose, tout en chassant pour tuer le temps.
Des bestes fauves.
Ils allaient deuxièmement chasser du côté de la rue des Abbesses. Il faut dire d'ailleurs qu'à l'époque, elle était méconnaissable.
Recouverte par les forêts les plus épaisses.
Mais déjà fréquenté par les bestiaux les plus redoutables.
Taillons, taillons, oh!
Le roi chassait surtout le bison avec infiniment de grâce.
Et toute la ville populaire à se crier bison, bison, beau bison. Oui, bison, spectacle est si bon. Et l'artiste travaillait sans filet à ventre bleu, la belle chasse.
Elle disait la population,
il travaille sans filet,
puis sans filet des filets de bison.
D'ailleurs, avec le bison, les pommes frites, ça descend vite et ça facilite la digestion.
Enfin,
oui, oui,
c'est très bon.
Mais il fout le roi, qu'il y a des fous de la reine, pensez tout bon.
J'ai vraiment de la veine, le patron est à la chasse au bison, la belle chasse au mérovingien, et moi je m'en fous, je reste à la maison, j'aime pas le bison.
Bison la reine.
Quand sur vint le mari Tyroli
avec une lanterne.
Car il y avait les féaux fidèles, ses loyaux surveillant la souveraine. Ils avaient tout raconté à son mari naturellement.
Le roi tenait énormément à la pureté de la race mérovingienne
et décida sur le champ que le bouffon était offrant.
Taillot, taillot, oh!
Alors il y a peut-être une boussole, mais le machin va t'enrager.
Et tous, depuis la reine frivole,
et son amant plus que parfait,
la servante elle est écuyée,
pour le père solène du palais, les féaux mouchards bénévoles, en passant par leurs chiens, leurs valets, tous passèrent à la casserole.
Taillot, taillot,
parle d'un tableau.
C'était un mérovingien pontin qui allait souvent à la chasse.
chassait le bison avec son vieux chien, tuait surtout ses copains, histoire d'oublier son chagrin. Les populations trouvaient ça très bien, disons, ça nous en débarrasse. Les populations trouvaient ça très bien, en attendant.
C'était un Mérovingien, une chanson de Francis Maville et Pierre-Philippe, interprétée par les frères Jacques.
C'est l'été sur France Musique.
Et il est temps d'accueillir tout de suite notre invité du jour, Alexandre Astier. Bonjour.
Bonjour.
Alexandre Astier, vous écoutiez avec attention cette chanson des frères Jacques qui détourne un petit peu, elle aussi, les légendes médiévales. C'est un truc que vous connaissez ou pas du tout, ça, ce répertoire-là?
Non, je connaissais mal. C'est pour ça que je me concentrais sur l'écoute. Moi, vous me donnez un truc à écouter, j'écoute, hein, je suis sage.
Alexandre Astier, avec qui on va parler aujourd'hui de la sortie du film ce matin même, Kaamelott, premier volet. Alors, on n'est pas là pour trier les lentilles, comme dit un de vos personnages.
Paraît-il.
On va faire le pitch du film rapidement.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça, le pitch? Le royaume de l'ogre est sous le joug de Lancelot du Lac. Le tyran. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas entendu parler du roi Arthur. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Et peut-être que on apprend qu'il est en train de revenir. Voilà, c'est le retour du roi Arthur.
Il y a une cohésion entre les 10 ans de la narration et les 10 ans que vous avez mis à réaliser ce film, enfin le tourner, le monter. Il ne vous a pas trop manqué, Arthur, pendant ces 10 années, depuis la fin de la diffusion de la série à la télévision?
Pas tant, non, parce que je savais que l'histoire me pousserait à le mettre en réserve, hein, puisqu'il a quitté son royaume et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en son absence. Donc ça a été très agréable de le retrouver à l'écriture, justement parce que je l'avais pas eu depuis longtemps et que il a fallu que je me demande comment est-ce qu'il avait attendu tout ce temps-là.
Ça fait longtemps que vous rêviez à cette trilogie?
Oui, déjà parce que je sais que 2 heures, c'est un petit peu court pour boucler ma saga. C'est pour quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des séries de 6 heures, c'est un peu compliqué. Donc je sais que ça se passe en 3 chapitres. Ça fait un moment que j'ai envie de ça. Et ma foi, c'est ce qui est en train de démarrer, a priori.
Est-ce que ce sera la fin de l'aventure arthurienne?
Du monde d'Arthur, je ne sais pas, parce qu'il y a plein de choses que j'écris à propos de Kaamelott et qui ne sont pas dans la saga elle-même. Il y a des BD, donc je continue d'écrire des histoires qui se passent dedans. Mais la saga, la quête du Graal, il serait question qu'elle s'achève au 3e film, oui.
Alors on va rentrer un petit peu plus en détail dans ce film, Kaamelott premier volet, qui sort aujourd'hui au cinéma. À l'origine de Kaamelott, quand vous avez commencé l'aventure, moi j'ai quand même d'abord une question. Est-ce que vous aviez en tête, est-ce que vous connaissiez le film Sacré Graal des Monty Python? Je dis ça parce qu'il y a une veine vraiment très absurde dans toute la série et puis dans le film aussi. Je pense en particulier là dans le film à la scène du jeu de Robo Brawl. Honnêtement, je vous le dis, j'ai rien compris.
Oui, moi non plus. Ça, c'est pas moi qui vais vous renseigner là-dessus. Ce genre de jeux sont compris par les gens du Pays de Galles, dans Kaamelott, dont je ne suis pas. Donc je peux absolument pas vous aider. Oui, les Sacré Graal, j'allais dire plus le travail des Monty Python en général, ouais. Plus que Sacré Graal en particulier. Le Flying Circus, la vie de Brian, parce que je crois que c'est la première émotion vis-à-vis des Monty Python, c'est de se rendre compte qu'ils faisaient de la comédie très sérieusement à l'anglaise, avec cette minutie donnée aux détails. C'est-à-dire que vraiment, pour décaler quelque chose, ils s'occupaient d'abord de le faire très bien. C'est ceux qui ont appris que pour être absurde, il fallait que l'environnement soit solide.
Le comique qui passe alors par les scènes, hein, bien sûr, par les situations dans la série Kaamelott et puis dans le film Kaamelott premier volet, mais aussi, moi je trouve, par la musique, des mots. Il y a un petit côté Audiard quand même, hein, dans vos dialogues. C'est une source d'inspiration, ça aussi.
Absolument, oui. Bah oui, pour les dialogues, en tout cas. Alors pas que, parce que bon, moi ce que j'aime bien, c'est les langues. Autant dans nos vaudevilles, comme la biche, comme. C'est-à-dire que je pense que ce que j'aime, c'est que les gens aient un langage. J'ai toujours été sensible aux auteurs qui aimaient ça aussi. Hein. Par exemple, Greg pour Achille Talon. Je pense que voilà, c'est tout bête, mais c'est quelqu'un qui a donné un langage à ses personnages, qui a même donné le même langage à tous ses personnages, comme quoi, ce qu'on appelle la caractérisation, il faut que chacun ait son niveau de langage, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il faut que ça sonne avant tout, il faut que la réplique soit musicale, c'est ce qu'on cherche d'abord.
Bah, c'est le cas au début du film, en tout cas dans cette scène hilarante avec Guillaume Gallienne, qui incarne une sorte de pirate un peu efféminé, un peu cruel, à la fois toute la saveur de la scène est là, hein, dans la musique du texte. Bah, puisque je parle de Guillaume Gallienne, on peut dire que vous avez accueilli de nouveaux acteurs, là encore, et pas des moindres, hein, dans ce premier volet de la trilogie.
Oui. À chaque fois que j'écris quelque chose, de toute façon, j'essaye d'accueillir tout autant des gens avec qui j'ai envie de travailler, qui sont connus, que les gens connaissent et que je connais moi aussi et qui me donnent envie d'écrire pour eux, tout autant que des jeunes gens qui sont pas connus mais qui rafraîchissent un peu le casting et la famille de Kaamelott. Donc oui.
Ah là, il y a comme un nouvel arrivé dont il faut dire un mot, c'est Sting.
Possible. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Sting?
Bah d'abord qu'on savait pas qu'il avait ses talents d'acteur, il est exceptionnel.
Ouais, je l'avais déjà vu jouer dans Dune, mais c'est vrai que ça m'étonne pas. Je le savais pas, mais ça m'a pas étonné de le voir comme ça. Il a été très studieux, très travailleur, il travaillait ses répliques. D'autant plus qu'il n'est pas totalement francophone, donc ça veut dire que voilà, il voulait tout comprendre, ce qui se passait en face, ce qu'il disait lui. J'ai été très touché, mais je veux dire, je m'attendais pas à autre chose. C'était sûr que ça était un mec comme ça, quoi.
Alors ça, c'est pour les nouveaux. On retrouve bien sûr dans le film des anciens comme Alain Chabat.
Excusez-nous, on a juste préparé une petite journée beauté bien-être, un petit frichti tout fruit. C'est vrai qu'on n'attendait pas vraiment votre visite.
Oui, ça risque pas. On croyait que vous étiez mort.
Oui. Mais ça m'avait fiché un coup. Hein. Et alors la petite pas tant, mais bon, c'est vrai qu'elle est moins...
Attention.
Bah quoi?
Elle est plus, elle est moins. Attention, c'est tout.
En tout cas, vous êtes de retour et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour nous tous, hein, bien sûr, mais surtout pour le peuple breton qui a là commencé sérieusement à tirer la langue. Hein. C'est-à-dire? C'est métaphorique. En fait, ils tirent pas littéralement tous la langue. Ils sont au bout du rouleau, quoi. C'est pareil, il n'y a pas littéralement un gros rouleau avec des gens au bout qui sont... Avec tout au bout des gens qui sont...
Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ?
Bah, des fois que vous redeveniez roi.
Quoi ?
Bah, pardon, mais ça nous a tous traversé l'esprit. Hein.
Sans blague.
Vous ressurgissez, là, comme un beau diable, alors que le royaume de l'ogre est opprimé par un malade tyrannique. Oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas... Vous le sentez pas, hein. Personne ne vous dit.
Un extrait du film Kaamelott, premier volet, qui sort aujourd'hui au cinéma, avec vous, Alexandre Astier, avec la voix d'Alain Chabat, qui joue le duc d'Aquitaine, alors qui, lui, dépense des sommes folles, hein, pour votre retour. Mais alors, vous, quand je dis vous, je parle du personnage, Arthur, vous n'avez absolument pas envie, hein. C'est un peu l'histoire, c'est qu'il n'a pas du tout envie de revenir en Bretagne.
Eh ben non, il y a 6 saisons pour montrer que la quête du Graal est quelque chose qui pèse très lourd sur ses épaules et qu'il essaye de se soustraire à cette responsabilité. Donc là, ça fait 10 ans qu'il avait la paix. En tout cas, il appelle ça comme ça. Et ça lui retombe dessus encore. Donc non, il y va pas la fleur au fusil. Il préférerait que ce film n'ait pas lieu même.
On retrouve quand même, je dis ça pour ceux qui ont adoré la série, les recettes, j'allais dire, de Kaamelott, ces petites formules, ces petites scènes parfois un peu absurdes, hein, tout au long du film.
Un long film, 2 heures de film, c'est un train qui est fait avec des petits wagons de petites scènes, des fois. Il y a des choses un peu plus épiques dans le film, évidemment, parce que c'est... Voilà, il y a plus d'ampleur, certainement, mais les petites choses sont là, bien sûr, et les grandes aventures sont faites de petites choses.
Il faut un rythme, d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas plus difficile de trouver un rythme comique sur un grand format que sur un petit format qui était celui du début, le 3 minutes 30?
Non, c'est plus simple, au contraire. Ah ouais. Oui, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez comme pour une pièce musicale, vous avez vraiment le choix de pouvoir rentrer dans un mouvement rapide et puis d'un coup de calmer le jeu et puis d'un coup d'aller sur quelque chose de plus introspectif, puis tac, une scène plus drôle comme ça, plus éclatante. Enfin, je veux dire, vous faites une structure. Donc, c'est plus simple parce que vous avez plus d'outils. Pardon ?
Je dis là, c'est le compositeur qui parle.
Oui, parce que c'est fait de la même façon. Les mouvements dans un... On part du tout pour découper ces petits moments et puis leur donner un rythme particulier à chacun, une couleur à chacun. Donc là, c'est pareil et c'est plus simple parce que du coup, on peut aussi penser au grand tableau, quoi.
Alors on parlait du rythme, justement la musique, elle est au centre de votre vie, bien sûr. Vous avez toujours composé la musique des épisodes de Kaamelott, idem pour la BO du film, enregistrée en plus par les amis de l'Orchestre National de Lyon.
Oui.
La musique est aussi au centre du film, et cette réplique à un moment, la guerre c'est de la musique. Est-ce que vous pensez déjà musicalement quand vous écrivez un film ?
Je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas musiciens, qui pour autant pensent musicalement les choses, ça se sent. Je veux dire par là que, je sais pas moi, quand vous regardez un Bertrand Blier, je sais pas si le mec joue lui-même du piano, mais j'en sais rien, on s'en fout. Par contre, c'est un musicien. C'est très clair que c'est un musicien dans sa façon d'amener les choses, dans sa façon de faire parler ses acteurs. Donc, je crois que quand on aime ce langage-là et quand on place le rythme au centre des choses, des prérogatives de ce qu'on fait, c'est le point de départ de tout, c'est le rythme.
Vous avez composé la musique du film, vous l'avez aussi orchestrée. C'est pas vous qui l'avez dirigée, c'est Franck Strobel hein, qui ouais. est à la tête de l'Orchestre National de Lyon. Vous avez composé une musique avec un côté plus épique. Est-ce que c'était une façon peut-être de, je sais pas, de complexifier la légende du personnage qui apparaît un peu plus épais, moins seulement un personnage comique.
Au même titre que les décors, que les environnements ont grandi, ont grossi, la musique aussi, elle a pris un cran dans ce genre-là. Elle est là, comme le reste, pour affirmer un environnement très solide et très périlleux pour ces petits personnages de comédie, pour qu'ils évoluent au milieu. Oui.
Allez, on écoute un extrait de la bande originale, la scène autour de l'épée Excalibur. C'est votre musique, Alexandre Astier, c'est l'Orchestre National de Lyon sous la direction de Franck Strobel. Excalibur noir, un extrait de la bande originale de Kaamelott, premier volet, qui sort aujourd'hui au cinéma, interprété par l'Orchestre National de Lyon sous la baguette de Franck Strobel. La musique est de vous, Alexandre Astier. On l'a pas encore dit, mais on va le redire. La musique est déjà disponible au disque depuis novembre dernier sous le label Deutsche Grammophon. Alors je sais, Alexandre Astier, par quelques informateurs et amis de l'Orchestre National de Lyon, que vous aviez envoyé une copie de la musique du film à Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale. Est-ce que vous savez s'il l'a écouté et s'il l'a fait écouter aux extraterrestres éventuels?
Écoutez, Thomas Pesquet, normalement, en ce moment, devrait être en possession, non pas de la musique, mais du film lui-même. Donc, on va voir s'il a le temps de la regarder, parce que je pense qu'il n'a quand même pas que ça à faire. Mais en tout cas, on le lui a fourni, oui.
Oui, mais il faut bien se détendre un absolument, petit peu aussi absolument. À bord de l'ISS. La musique qui a toujours été là dans votre carrière, est-ce que vous composez, est-ce que vous faites encore de la musique en dehors de Kaamelott?
J'ai pas le temps, vraiment. Ouais. Je bricole, oui. J'ai toujours un peu en tête des choses comme ça, mais j'avoue que j'attends la prochaine chose que je vais fabriquer, que ce soit au théâtre ou au cinéma ou en série ou que sais-je, pour avoir l'occasion de composer pour. C'est un peu ça qui crée mes zones de jeu.
Est-ce que vous avez le temps quand même d'en écouter de la musique?
Pas beaucoup, non. Ouais. J'écoute pas grand-chose. Je regarde pas grand-chose. Et je suis.
Vous n'écoutez que du Bach, en fait.
Non, j'écoute pas que du Bach, mais j'écoute peu de choses parce que déjà premièrement, je ne peux pas écouter de musique de manière, passive. Mm. Je crois que je suis pas très doué pour écouter de la musique et faire autre chose. La musique, ça prend toujours un peu de place, donc du coup, si je fais autre chose en même temps, ça marche pas tellement.
En tout cas, je vous ai demandé, moi, s'il y avait un morceau que vous vouliez partager avec les auditeurs de France Musique, et vous m'avez répondu « Tutu » de Miles Davis. Alors, c'est avec Miles Davis à la trompette, mais en fait, le titre est de Marcus Miller.
Absolument.
Je crois que vous êtes fan absolu de Marcus Miller.
Oui, et c'est marrant parce que ce morceau-là, quand il est sorti, donc moi, chez moi, j'avais pas de platine, CD, tout ça, machin, mais au conservatoire, parce que j'étais en horaire aménagé au conservatoire à Lyon, on avait une médiathèque, un truc où on pouvait entendre des disques, quoi. Et j'y allais tous les jours, après la cantine, j'allais dans cette machin et je demandais toujours le même disque. Et le type me voyait arriver, d'ailleurs je lui demandais plus au bout d'un moment. Il chargeait tout, et puis je mettais mon casque, il me donnait juste le numéro du petit truc de casque, je te mets à la 4. Et j'allais à la 4 et j'écoutais Toutou parce que ça a représenté pour moi un truc incroyable. Marcus Miller, sa façon de composer, et cet album-là en particulier, c'est devenu un modèle pour moi de composition dans le fusion et tout ça.
C'est une obsession en fait que vous aviez...
Mais je marche pas mal comme ça moi. Je suis plutôt du genre à regarder 200 fois le même truc que 200 trucs différents. Mais là c'est vrai que j'essayais d'écouter tous les détails de ce truc-là et j'étais assez fasciné par cette couleur de... Alors c'est un enregistrement studio, c'est très propre et tout ça. Après, j'ai aimé les choses peut-être un peu plus cralingues, mais en plus, il était bassiste. Moi, c'est ce que je faisais aussi. Ça a été un modèle, Marcus Miller, pour moi, vraiment.
Alexandre Astier, on fait un petit tour à la médiathèque avant d'aller au self.
À la 4, s'il vous plaît.
Extrait de Toutou de Marcus Miller avec Miles Davis à la trompette, Marcus Miller lui-même à la basse. John Smiles au synthétiseur, Paulinho da Costa aux percussions et Jabali Billy Hart à la batterie. C'était la musique que vous vouliez nous faire partager ce matin. Alexandre Astier, notre invité dans Musique Matin, qui est là pour parler de la sortie de Kaamelott, premier volet au cinéma. Alors honnêtement, je ne sais pas exactement quand vous avez fini de tourner le film, mais il y a une scène dans les souterrains à un moment donné avec les résistants, on va pas en dire plus, où l'on pense férocement au couvre-feu, au confinement d'hiver, qui a d'ailleurs retardé la sortie du film. C'était volontaire ou c'était le hasard total?
Non, c'est écrit avant. C'est écrit avant tout ce bazar. Le modèle pour tout ça, c'était plutôt notre occupation de 39-45, ouais. Hein, qui a nourri nombre de nos films et même de nos comédies. Avec ce partage entre les collabos, les résistants, les traîtres, les attentats, les que sais-je. Donc c'était plutôt ce lexique-là qui a été utilisé. Alors effectivement, ça a pris un double langage bien involontairement depuis.
Ça me fait penser que le film sort aujourd'hui, 21 juillet, et qu'à partir d'aujourd'hui, dans les cinémas, comme dans tous les lieux de culture, il va falloir présenter son pass sanitaire ou un test PCR pour rentrer. Est-ce que ça vous fait peur, ça, le jour de la sortie? Est-ce que vous avez peur que ça dissuade des gens d'aller au cinéma?
Ah, ça en dissuadera, malheureusement. Ça va pas me faire peur ou pas. Hein. Priorité à la santé de tout le monde. Hein. On va pas mettre le cinéma avant quoi que ce soit. C'est vrai que c'est un peu dur parce que ça tombe pile ce jour-là. Effectivement, la décision a été très, très rapide et que bon, personne n'a eu le temps de se retourner, pas plus mes camarades exploitants de salle qui se retrouvent bien démunis face à cette soudaineté.
En tout cas, l'engouement a l'air d'être là quand même, puisque j'ai lu que plus de 60 000 places se sont vendues pour les avant-premières du film en 24 heures.
C'est pas mal quand même. Oui, mais là, on en est assez. Je sais plus à combien on était hier, mais. On a dépassé les 130 000, oui.
Ah ouais. On va revenir à Kaamelott une dernière fois avant de se quitter. Alors évidemment, on va pas dévoiler tout ce qui se passe dans le film.
S'il vous plaît.
Encore moins ce qui se passera dans les deux autres volets de la trilogie. Mais est-ce que vous le savez déjà?
Oui, j'ai mes arches.
Vous savez comment ça va finir, quoi.
Ah, je sais comment ça va finir. Je suis obligé de savoir comment ça va finir.
Est-ce que parfois, pendant que le travail d'écriture, est-ce que parfois justement ces arches, ça peut changer? Est-ce qu'on se laisse entraîner par sa propre écriture et puis on se dit, ah ben tiens, oui, je vais dans cette direction, je m'y attendais pas?
Oui, je crois qu'il faut savoir. Mais après, c'est un peu l'expérience. Mais il faut savoir se laisser bousculer dans ses idées. Il faut être très réceptif à tous les accidents, parce que tous les accidents sont heureux si vous savez vous en servir. Notamment, par exemple, un acteur simplement qui vient vous rejoindre et qui présente une langue différente et qui d'un coup vous explique non seulement comment il parle, mais peut-être même qui il est. Et puis qui finit par vous expliquer ce qu'il fait là et pourquoi et qui est-ce qu'il va affronter et qui est. Donc en fait, il faut laisser l'histoire se raconter toute seule, avec une espèce de bienveillance d'ingénieur au-dessus pour mettre de l'ordre dans tout ça, mais il faut se laisser bousculer, oui.
Pour finir, je voulais vous dire qu'en préparant cette interview, je suis allé regarder une chose que je n'avais jamais vue. C'est votre tout premier court-métrage. Ça s'appelle Soyons Sport. Je ne sais pas si vous.
C'est pas moi qui l'ai réalisé. Écrit seulement. Oui.
Ah oui, mais vous êtes dedans. Vous tournez dedans et vous y incarnez déjà un personnage un petit peu aigri, un peu énervé contre tout le monde, un peu blasé. Je voulais savoir, est-ce que c'est vous en fait, le roi Arthur?
Je sais
est-ce
pas.
Est-ce que c'est si vous ce personnage
suis...
dans la vie?
Je ne sais pas si je suis blasé, souvent énervé. Oui, sûrement. Mais avec l'âge, vous savez maintenant. Moi, je commence à. Je vais faire des choses plus calmes maintenant. Non, je m'énerve moins. Mais j'ai une passion pour Louis de Funès. Ouais. Louis de Funès qui s'est toujours arrangé pour incarner des rôles de quelqu'un qui va plus vite que son environnement et qui est plus impatient que son environnement et qui aimerait que les choses marchent alors que son environnement les fait capoter. Donc c'est sûr que je fantasme toujours ce type de personnage-là et c'est ces personnages-là que j'ai envie de jouer. Ouais.
Alors du coup, je repose ma question à l'envers. Est-ce que comme vous, avec l'âge, le roi Arthur, il s'attendrit pas un petit peu?
Alors pas dans le film qui sort aujourd'hui. Au contraire, il est très énervé dans ce film-là. Il est très, il a besoin de vengeance. En tout cas, il va venir pour voir ceux qui sont restés de son côté et ceux qui l'ont trahi en son absence. Donc non, là pour le moment, il est assez vénère. Mais on va voir. Je sais pas quel âge j'aurai pour les volumes 2 et 3. Peut-être que je ferai un joli roi avec une belle barbe blanche là pour le troisième. Peut-être qu'il sera très calme.
Pour l'instant, on va se concentrer sur le premier volet qui sort donc aujourd'hui au cinéma. Alexandre Astier, avec votre musique, on va se quitter avec un autre extrait de la musique du film Kaamelott. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur France Musique.
Merci
ce matin.
Merci de m'avoir invité.
Bonne chance à Kaamelott, KV1, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi.
Ouais, ça fait nom de code, c'est bien.
Ouais, c'est un peu secret, un peu militaire. Et puis, longue vie à Kaamelott et au roi Arthur.
Thank you.
Un dernier extrait de la musique du film Kaamelott, premier volet. Musique signée Alexandre Astier, interprétée par l'Orchestre National de Lyon sous la baguette de Frank Strobel. Kaamelott qui sort donc aujourd'hui sur les grands écrans dans tous les cinémas. Je crois que vous êtes déjà nombreux à l'avoir vu en avant-première et je pense que ça devrait continuer d'ici là. Et bien voilà, Musique Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. Il est temps de découvrir le nom des gagnants du jour et surtout la bonne réponse à la question. C'était donc Tom et Jerry. Ben oui, c'est le 29e épisode de la série paru en 1947. L'épisode s'appelait The Cat Concerto, le concerto du chat. Un épisode qui met en scène le chat Tom qui essaie de jouer la virtuose deuxième rhapsodie hongroise de Liszt, qui réveille la souris Jerry et qui dormait dans les touches du piano. Commence alors une course-poursuite hilarante où Jerry essaye de fuir les marteaux du piano qui s'abattent sur les cordes avant de se venger en essayant de perturber le chat pianiste qui doit accélérer le tempo toujours plus rapidement avec de la sueur au front. Et puis à la fin, c'est Jerry qui salue le public et qui reçoit tous les applaudissements à la place du pauvre Tom qui s'est encore fait berner par cette bien méchante souris. Alors bravo à Pierrette Bernier de La Rochelle, Nadia Tantcheva-Christova d'Antibes et Guy Schumacher de Pluneray dans le Morbihan. Tous les trois, vous recevrez le disque d'Alexandre Kantorov dans vos boîte aux lettres. La journée ne fait que commencer sur France Musique. Elle se poursuit à 9h avec un nouvel été classique d'Edouard Niqueux. Bonjour Edouard.
Bonjour Clément.
Alors au programme aujourd'hui?
Eh ben aujourd'hui on met cap à l'est Jana Tchèque, In The Mid, Kodaile et puis Bruckner parce qu'il faut quand même un peu de gras et que comme dit Caradoc,
le gras c'est la vie. Vous avez bien retenu votre leçon Edouard. À tout de suite.
À demain.
Quant à moi, eh bien je vous retrouve demain matin à 7h30 sur France Musique. Demain nous recevrons la chanteuse Yoon Sonna pour son concert au festival Jazz in Marciac avec le guitariste Ulf Wackenius, concert qui sera d'ailleurs diffusé en direct sur France Musique le 27 juillet. Allez, un grand merci à toute l'équipe du jour. L'émission a été préparée par Marjolaine Portier-Kaltenbach et Florian Henault, dont on salue la grand-mère qui est une fidèle de France Musique. Odile Henault, on vous embrasse très très fort de la part de toute l'équipe. Merci aussi à Maxime de Peretti, Xaviato et YouTube Diego Aclopes à la technique. L'émission du jour a été réalisée par Taïsia Froidure. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée sur France Musique et je vous dis à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.